Qu'est-ce que vous avez là?
Où ça?
Mmh.
Un poireau.
Un poireau? Oh, c'est pas beau, ça.
Si, si, je trouve ça très joli, moi.
Oh non, c'est laid, c'est très laid, ça. Dites donc, il y a deux poils là-dedans, des grands poils.
Oui.
Ça vous fait pas mal?
Non.
Comme ça vous fait pas mal?
Non.
Et comme ça, attendez. Ça fait mal, bon Dieu, ça fait mal.
Dans le boudoir de Norman Bates. Le podcast qui taxidermise le cinéma.
Bonjour à tous, bienvenue dans le boudoir de Norman Bates avec mes trois acolytes habituels pour ces sessions podcast. Camille, qui est donc journaliste à la RTBF et à Diapason, directeur de Forum Apéra et qui a trois poules. Édouard Meyer, qui est un passionné de cinéma et a eu la chance d'en programmer un. Et enfin, Édouard Bran, qui est un curieux touche-à-tout, cinéphile inconditionnel et qui navigue entre la direction artistique, la photographie et le conseil auprès du CNM, le Centre National de la Musique, pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui s'appelle Amadeus, qui est sorti en 1984, réalisé par Miloš Forman, et qui a été réédité dans sa version Director's Cut en 2002. Pourquoi ce film? Puisque le principe de cette émission, c'est que nous choisissons chacun notre tour un film. Et moi, ce film, je pense que je l'ai vu au bas mot une cinquantaine de fois quand j'étais petite en VHS. Donc, je l'ai vu assez tôt, en fait, sur Canal+ à l'époque. Et des années après, les scènes entières de ce film et la musique me fascinent. Donc, aujourd'hui, je suis contente de voir les retours des trois autres personnes. On va commencer par Camille. Camille, je crois que toi aussi, tu l'as vu dès l'enfance, ce film, qui à la base était une adaptation d'une pièce de théâtre de Peter Schaffer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les libertés biographiques de ce film?
Beaucoup de choses, en fait, et je crois qu'on peut même pas parler de liberté biographique. J'y reviendrai dans un instant. La première chose que je veux dire, c'est que comme toi, j'ai vécu, pas la sortie de ce film parce que j'étais trop jeune, mais je me souviens de sessions de visionnage chez mes parents, chez mes grands-parents. Je l'ai vu en VHS, je l'ai vu en français, évidemment, comme beaucoup d'entre nous. Et puis, je l'ai redécouvert en anglais, puis j'ai découvert la direct Scott. Donc, sans aller jusqu'à 50 fois, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Et c'est drôle parce qu'il y a eu une sorte de grand gap entre ma dernière vision et celle que j'ai faite hier soir pour revoir le film. Et j'ai redécouvert un univers à la fois avec des souvenirs qui étaient très clairs, mais des choses aussi que j'avais pas perçues. Et puis, il faut voir aussi le passage des ans. Alors, ce qui est très important dans ce film, Amadeus, qui ambitionne quelque part de décrire les dernières années de la vie de Mozart quand il décide de s'affranchir de la mainmise du cardinal Colloredo pour lequel il travaillait à Salzbourg et qu'il va s'installer à Vienne en musicien freelance, ce qui était tout à fait inhabituel à l'époque. On travaillait toujours pour un protecteur et au sein d'une cour. Et donc Miloš Forman veut à la fois décrire ses dernières années de Mozart, sa relation à la cour, sa relation au monde des artistes de l'époque, notamment celle qu'il a avec Schikaneder, le librettiste de La Flûte Enchantée, qui est dans le film interprété par Simon Callow, et puis sa relation avec Salieri, qui est le compositeur de la cour, donc le premier compositeur de Vienne, l'oreille de l'empereur, et un compositeur aux yeux de Miloš Forman extrêmement médiocre, qui aurait petit à petit, par jalousie, planifié la mort de Mozart en lui commandant un requiem alors qu'il voyait déjà qu'il était à bout de force. Bon, en fait, je crois qu'il faut se tourner vers le discours de Donald Trump. Il faut toujours se tourner vers le discours de Donald Trump pour analyser les films. Et en fait, là, on parle pas de liberté biographique, on parle de faits alternatifs. Donald Trump disait de la vérité qu'il pouvait exister une vérité alternative. Ce que fait Miloš Forman, c'est un peu ce que fait Tarantino à la fin de Once Upon a Time in Hollywood quand il décide que Sharon Tate ne va pas mourir mais que la bande à Manson va sonner à la mauvaise porte et se faire zigouiller par Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. C'est inventer une réalité parallèle, une narration parallèle. Donc en gros, dans le film, tout le récit qui est fait par Salieri sur la jalousie à la cour, la relation entre Mozart et Salieri, et donc le fait que Mozart ait été tué sciemment par Salieri est une invention, une spéculation, ne repose sur aucun fait réel. Et je dirais que si le film sortait aujourd'hui, on dirait à tout le moins qu'il manque de trigger warnings ou d'éléments permettant aux spectateurs de bien comprendre que on n'est pas du tout dans quelque chose qui ambitionne de raconter la réalité. Ensuite, ce qui est très saisissant quand on le voit aujourd'hui, c'est que c'est un film puissamment misogyne, parce que aucune femme dans le film, alors que dans les œuvres de Mozart, elles ont un rôle prépondérant, n'a quoi que ce soit de positif ou de substantiel à offrir, et que les deux seules femmes, ou disons trois femmes qui apparaissent dans l'intrigue, sont une horrible mégère qui ne pense qu'au fric et qui va lentement tuer son mari dans le cas de Constance Weber, donc la femme de Mozart, une harpie encore pire dans le rôle de la mère de Constance, et puis une soprano qui est là et qui pense qu'à coucher avec tout le monde. Bref, on est à la fois dans un film qui donc ne dépeint pas la réalité, s'offre une sorte d'énorme passe-droit, mais qui la présente comme telle. Et puis, pour revenir à la forme, on est dans une narration qui est très originale, dans la mesure où on voit Salieri plusieurs années plus tard s'égorgeant, rongé par la culpabilité, et puis retraçant le récit de sa relation avec Mozart auprès d'un confesseur, dont il faut dire d'ailleurs que le rôle est assez fascinant, parce que ce confesseur, on va le voir pendant tout le film en contre-plan, et en gros, il va pas dire un mot.
Ce qui est assez amusant, Camille, c'est que ce film, pour les non-initiés, la plupart qui l'ont vu à l'époque, ont dû penser que c'était vraiment la biographie de Mozart. Comment tu penses que le grand public pourrait faire le tri encore aujourd'hui, d'ailleurs ?
Moi, j'ai grandi en pensant que ce qui était dans Amadeus était vrai, et je pense que l'entièreté des spectateurs qui ont vu Amadeus pensent qu'effectivement, cette histoire est réelle, et pour le coup, elle est totalement fascinante. Alors, évidemment, le dramaturge s'est pas inspiré de rien. Il y avait notamment un opéra de Rimsky-Korsakov qui s'appelle Mozart et Salieri, dans lesquels des éléments de cette rivalité sont palpables. Il y a, par rapport à tout le côté scatologique de Mozart, parce qu'on va en parler énormément, le personnage de Tom Hulce, qui est un acteur qui a plus ou moins totalement disparu après ce rôle qui pourtant l'a projeté à l'avant des scènes du monde entier. Il campe un Mozart vulgaire, qui est le contre-pied absolu de la grâce qu'il y a dans sa musique. Ça apparaît par des éléments qui, eux, sont très tangibles dans la correspondance de Mozart, où on voit qu'effectivement, dans les lettres à sa sœur, par exemple, il aime bien faire de l'humour scato. Mais de là à penser qu'il était cet histrion insupportable, vaniteux, et pour être honnête, totalement odieux, c'est, disons, un vœu pieux de Miloš Forman et de son scénariste, qui ont décidé de faire de Mozart le contre-pied absolu de sa musique, ce qui est une idée qui peut paraître belle, mais qui effectivement a donné à, je crois, beaucoup de gens une idée très fausse de qui était Mozart.
Édouard, j'aimerais savoir, toi, par rapport à la filmographie de Miloš Forman, qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage d'Amadeus ? Parce que on sait que Miloš Forman est assez attaché à ces personnages un peu rebelles, un peu souvent anti-système, un peu irrévérencieux, c'est un adjectif qu'aime beaucoup Edouard Brann. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Bah effectivement, moi, en voyant le film, je me suis dit un peu la même chose. Je me suis posé souvent la question, tiens, mais de qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai, etc. Et j'ai douté à plein de moments. Donc, en n'étant pas spécialiste, je trouve que justement, la question de la vérité m'a un peu, pas gêné, mais je me suis aperçu qu'à ce moment-là, on la prenait de manière beaucoup plus légère, sachant que tous les biopics qu'on suivit, et maintenant, c'est devenu une... ce genre-là du biopic est devenu un genre presque majoritaire dans les films d'auteurs qui sortent aujourd'hui. Ils prennent effectivement beaucoup moins de liberté avec leur sujet que Miloš Forman l'a fait pour Mozart. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on n'est plus habitué à pas avoir des biopics qui s'intéressent à la psychologie mais respectent les faits. Là, on a un biopic qui finalement s'intéresse assez peu à la psychologie, mais par contre, respecte pas les faits. Donc, je me suis dit, tiens, là, on est dans quelque chose qui a un petit peu changé. Et par contre, cette forme-là du biopic, effectivement, Miloš Forman, il l'a beaucoup utilisé. Et Amadeus, pour moi, ça fait un peu une sorte de petit triptyque avec les deux films qui suivent, qui sont Valmont et Larry Flynt aussi. Donc Valmont, qui est une adaptation libre aussi des Liaisons dangereuses, et Larry Flynt, qui est là davantage un vrai biopic sur un patron de presse américain sulfureux. Et ben là, je trouve qu'il y a un petit triptyque de gens qui sont effectivement des marginaux, des cast-off, des gens qui sont contre l'establishment, qui sont aussi géniaux. Là, il y a vraiment un trait de caractère chez tous les personnages de Larry Flynt, qui est qu'à la fois ils sont en dehors de la société, mais ils sont aussi un peu géniaux, quoi. Man on the Moon avec Jim Carrey, ce sera ça aussi. Larry Flint aussi. Ils ont raison contre tous, mais ça les rend pas forcément heureux. Et je trouve que là, il y a quand même une cohérence assez forte entre tous ces films de Miloš Forman, mais effectivement un truc qui vieillit pas trop bien, qui est que ce sont à chaque fois des hommes qui prennent la place des femmes, qui laissent pas parler les femmes, qui les traitent pas forcément super bien. Et là, il y a un truc qui vieillit d'un seul coup aujourd'hui de nouveau pas super bien.
Et d'ailleurs, cette figure du rebelle, l'antisystème, c'est probablement dû un peu à l'histoire aussi de Miloš Forman, qui lui, rappelons-le pour ceux qui ne savent pas, était un émigré, comme il aime dire, de Tchécoslovaquie aux USA. Il est revenu tourner d'ailleurs ce film en Tchécoslovaquie après des années sous régime communiste. Donc, quelque part, il se situe lui aussi comme un espèce d'antisystème. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Édouard Brann, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, par rapport aux grands moments musicaux de ce film, Amadeus? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Écoute, tout ça est très irrévérencieux, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Mais je trouve pas du tout que le film le soit. Pour parler de la musique, ou plutôt de la bande-son, la bande originale du film, elle est devenue culte parce que ça rassemble tous les tubes, en fait, de Mozart. Que ce soit des concertos pour piano, Don Giovanni, l'enlèvement au sérail, une messe, une symphonie concertante, ou les symphonies 25 et 29, dans une sublime interprétation, dirigée par Sir Nevin Marina, avec The Academy of St. Martin in the Field. Donc je trouve que, au-delà de toutes les questions effectivement de genre, ou en tout cas de questions de la place de la femme, c'est une très 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 bonne entrée dans le monde musical ou dans l'esprit musical de Mozart. Et d'ailleurs, je trouve que l'exercice de montrer de l'opéra au cinéma n'est pas un exercice facile. Et pourtant, là, voilà, il y a quand même 8 minutes de représentation de Don Giovanni et du son final quand le commandeur arrive. Et en fait, il faut savoir que Miloš Forman était à Londres quand il a découvert la pièce de Peter Schaeffer, qui ne l'a pas tellement aimé, en fait. Il a trouvé ça long, il a trouvé les dialogues vieillots, etc. Mais il a aimé quand même, effectivement, l'idée de la rivalité entre Salieri et Mozart. Ce qui fait que, finalement, bon, bah, il a invité Peter Schaeffer dans sa résidence dans le Connecticut, et ils sont mis à écrire ce film, qui a été pensé de A à Z avec et en fonction de la musique. C'est-à-dire que chaque scène est pensée en fonction du placement de la musique. Et il y a des scènes mythiques dans ce film, a commencé par, pour moi, celle qui est restée vraiment figée dans ma mémoire de cinéphile, qui est ce moment où Mozart retrouve son père en bas d'un escalier et qu'on entend l'ouverture de Don Giovanni avec son père qui est dans l'ombre avec un grand menton noir. Donc, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est l'ombre, les fantômes. Et d'ailleurs, il a fait un film qui s'appelle Les fantômes de Goya, Miloš Forman, un peu plus tard, l'un de ses derniers films, si je me souviens bien. Et donc, c'est cette réalisation, en fait, parce que c'est un film qui dépeint énormément aussi le XVIIIe siècle. Barry Lyndon était réalisé en 75, donc il y a Amadeus en 84, ensuite Les Liaisons Dangereuses en 88 et Valmont en 89. Ce qui est aussi significatif, c'est que tous ces films sont des films américains, mais avec souvent des acteurs anglais. Donc, la langue, je trouve, parler effectivement très théâtral, très maniéré, mais aussi comme nous, on peut le faire. Récemment, par exemple, je pensais à Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret. Mais voilà, j'ai toujours ce problème de la langue, moi, où je rêverais de voir en fait un film tourné au XVIIIe siècle, voilà, en langue allemande, où ils parlent tous allemand ou italien, etc., parce que c'était un mélange de cultures, en fait.
Alors d'ailleurs, effectivement, Miloš Forman, quand il parle de son film, il a conçu la musique. Pour lui, c'est vraiment le troisième personnage du film, hein, il le revendique. Est-ce que, au final, je ne sais pas si Édouard Meyer, tu as donc moyennement aimé le film, si j'ai bien compris.
Moi, je me souvenais aussi de l'avoir vu, je pense, au moment du directeur Scott, il fallait deux bobines, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est un souvenir lointain, mais je crois qu'il fallait faire une pause au milieu. Bah, moi, l'intérieur du film, en fait, je trouve que, malheureusement, j'avoue que y a la longueur du film n'est pas du tout le problème, mais je trouve que la dramaturgie du film fait qu'on s'accroche pas énormément à l'intrigue. Il y a une chose qui fonctionne, pour moi, fonctionne très bien, c'est la relation entre eux, notamment la scène où il lui dicte donc une messe sur son lit de mort, ça je trouve que c'est assez puissant. Il y a les scènes dans lesquelles aussi il se fait passer, à chaque fois il y a des jeux de costumes dans lesquels il se fait passer Salieri pour un inconnu pour rentrer dans la vie de Mozart, ça je trouve que ça fonctionne assez bien. En dehors de ces tableaux-là, moi je trouve le film un petit peu fade en fait, et j'avoue que parfois j'avais plutôt tendance à l'écouter qu'à le regarder, et je me suis parfois un petit peu ennuyé, j'avoue.
Camille, donc on a bien compris que la relecture de ce film des années après, donc assez récemment à la lumière, est-ce que pareil, en dehors du fait que tu as souligné toutes les incohérences, la misogynie du film, est-ce que ton sentiment a changé vis-à-vis de ce film entre quand tu l'avais vu petit et maintenant ?
Ah oui, énormément. J'ai vraiment regretté de l'avoir revu presque parce que ça enlève la magie de ce qui s'était passé quand j'étais petit. Mais je voudrais dire, en fait, à mon sens, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans ce film. On a parlé de la langue. Edouard Brann évoquait la langue. C'est vrai qu'il faut le dire qu'on a peut-être un peu perdu l'habitude aujourd'hui de ces films qui se passent à Vienne avec des Italiens, avec des Hongrois, avec des Autrichiens et qui sont entièrement scénarisés en anglais. L'énorme difficulté ici, c'est qu'on a à la fois des acteurs américains auxquels Miloš Forman a demandé de ne pas gommer leur accent américain. Et c'est le cas, par exemple, de Tom Hulce, donc le Mozart, qui parle en gros comme un Californien, avec en plus une touffe de cheveux blondes qui le fait ressembler à un chanteur de Kiss, et en toute une série d'acteurs qui ont un accent américain, et puis toute une série d'acteurs qui, eux, ont été castés à Londres, émanent plutôt de la tradition du théâtre britannique. Et puis, il y a des gens qui ont l'accent viennois. Donc, on est ici dans une sorte de mishmash de langues qui fait pas vraiment sens. Et on se dit que Miloš Forman avait honte de rien, vu que, si on se souvient bien des fantômes de Goya, son dernier film, Goya, donc le grand peintre espagnol, était interprété par Stellan Skarsgård, qui est un parfait suédois. Donc, il y a ce problème d'idiomatisme qui se pose et qui est souligné par le fait que, en plus, Miloš Forman fait un peu le malin du point de vue de la langue, vu qu'il pousse le raffinement jusqu'à faire chanter les opéras en allemand en anglais, donc parce que c'était des opéras que le peuple de Vienne était censé comprendre, donc par exemple l'enlèvement au sérail et la flûte enchantée, ben on les entend dans le film en anglais, alors que les opéras chantés en italien sont chantés en italien. Donc on comprend que Miloš Forman a vraiment une réflexion sur l'idiome et sur la manière dont l'idiome doit être représenté. Mais ça forme quand même une gloubi-boulga assez particulière. Ce qui fonctionne extrêmement bien, par contre, et ce qui est un peu la marque de fabrique de Miloš Forman, c'est toute la vie de cour. Donc d'abord les scènes de fêtes, les scènes de bal, avec en soin des costumes, de la scénographie, avec un art de filmer ces ensembles qui fait vraiment de Forman un grand réalisateur. Et c'est d'ailleurs très drôle de voir des parallèles qu'on peut faire entre, par exemple, Au feu les pompiers, un de ses premiers films dans lequel, enfin, qui est une scène de bal qui dure 1h20 et de voir ces mêmes mouvements plus tard dans Goya, dans Valmont, dans Amadeus. Donc ça, ce sont des scènes fabuleuses. Les scènes où on voit les courtisans sont absolument délicieuses et préfigurent un peu la favorite de Lentinos. Il y a par exemple un personnage qui est le Kapellmeister italien qui n'a pas, je crois, une ligne de dialogue, qui en a deux, mais qui pourtant apparaît au moins une vingtaine, si pas une trentaine de minutes à l'écran, et dont le rôle se joue entièrement silencieusement par des petites courbettes, par des petites mimiques, et qui est extraordinaire. Donc il faut dire, il y a une invention formelle, il y a une invention de mise en scène qui sont tout à fait extraordinaires, mais derrière ça il faut bien le dire, des choses qui ont mal vieilli et qui auront peut-être moins mal vieilli dans quelques années quand le film paraîtra plus loin de nous. La question des femmes est évidemment très saisissante aujourd'hui quand on est dans l'époque qui est la nôtre. Aussi la question des langues, je l'ai dit. Et puis, et ça j'aimerais qu'on en parle ensemble, parce qu'on l'a quasiment pas fait, c'est le personnage, l'acteur qui a été choisi pour jouer Amadeus. Il faut le dire, Amadeus était un des plus grands succès cinématographiques des années 80. C'est quasiment dans l'imaginaire populaire l'équivalent d'un E.T. ou d'un Indiana Jones. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un film que tout le monde a vu.
Bah, 40 récompenses, ouais. 40 récompenses quand même, ça se j'oublie pas. 8 Oscars pour rappeler aux gens qui ne connaissent pas ce film. Enfin, c'était un énorme succès de la profession et aussi un énorme succès commercial. Donc, effectivement, c'était très difficile de passer outre ce film à l'époque.
Et en fait, c'est un film qui a manqué une de ses ambitions, mais qui paraît rétrospectivement majeure et stupéfiante, c'est de lancer la carrière des acteurs. Parce que, à part F. Murray Abraham, qui a fait une carrière très honorable, qu'on a vu dans Le Nom de la Rose, plus tard dans Curb Your Enthusiasm, dans Goetheus de Peter Greenaway, dont on a parlé il y a quelques semaines, l'actrice qui joue le rôle de Constance Mozart, elle a quasiment complètement disparu. Son nom n'évoque pas grand-chose. Tom Hulce, qui joue Mozart, il a sombré dans l'oubli. Jeffrey Jones, bon, qui est l'acteur fétiche de Tim Burton, a eu des problèmes avec la justice, donc il a aussi disparu. Donc on a quand même un casting qui a un peu manqué de marquer son temps, alors qu'il a bénéficié d'une exposition sidérante auprès du public. Et Tom Hulce en Mozart, bah, c'est le grand point d'interrogation, je trouve, du casting dans les années 80. Qu'est-ce qui leur a pris de donner ce rôle à ce garçon qui est à la fois terriblement mauvais et à certains moments extraordinaire. Voilà, j'imagine que ça vaudrait peut-être la peine d'en parler.
Alors effectivement, j'ai un élément de réponse à ta question et après je vais redispatcher la parole aux deux autres Edouard. Milos Forman à l'époque avait volontairement, ne voulait pas d'acteur connu, c'est ce qu'il disait, il ne voulait pas faire d'ombre à Mozart et à la relation avec Salieri, il disait que tous les autres devaient être quasiment invisibles. Donc c'était un choix délibéré d'aller chercher de parfaits inconnus. Il voulait pas que, voilà, il voulait laisser la place à ce Mozart qu'en plus on ne visualisait pas trop, donc c'était la bonne aubaine pour lui pour choisir quelqu'un de totalement inconnu au bataillon. Et effectivement, il avait cette réputation, en tout cas on disait de lui qu'il arrivait à obtenir absolument tout de ses comédiens en termes de jeu d'acteur, mais qu'après c'était très compliqué pour les acteurs de redevenir eux-mêmes, ce qui arrivait typiquement à Tom Hulce qui a été complètement absorbé par ce personnage. Bon, il y a d'autres films hein, où il y a d'autres acteurs qui ont subi un peu la même destinée. Alors rapidement, je vais quand même dire, alors moi c'est marrant, j'ai revu ce film aussi hier, donc Camille, après ne plus avoir vu depuis que j'étais petite, et j'ai pas été déçue. Même si j'ai souligné beaucoup d'incohérences, je pense que le côté affectif de ce film était tellement fort qu'en fait, ça a fait un peu comme un effet de Madeleine de Proust. Ça a un peu effacé tous les problèmes que tu as effectivement soulignés pour se ressouvenir en fait des souvenirs d'enfance quand je regardais ce film. Édouard Meyer, est-ce que tu veux réagir à ce qu'a dit Camille ?
Moi, je suis assez d'accord avec Camille. En fait, je crois que le film qui a une visée internationale assez sage et on voit quand même que je trouve que c'est quand même un produit qui est fait pour plaire à beaucoup et qui est quand même assez sage. Pour moi, ça tire plus du côté que de Shakespeare in Love, que de La Favorite, si on exagérait un petit peu ou un petit peu beaucoup. Et je trouve qu'effectivement, moi, le film marque pas beaucoup parce qu'il est un peu trop sage. Donc la cour, elle est intéressante. Je trouve que les tableaux des opéras avec les costumes, lorsqu'il fait la fête avec sa tête de cheval, etc., ça c'est assez impressionnant aussi. Mais dans les faits, c'est relativement sage. On voit pas beaucoup d'excès. On voit pas beaucoup de banquets qui débordent, on voit pas beaucoup de relations entre les personnages, donc on est dans un environnement qui est relativement sage et je trouve que même leur relation entre les deux est assez gentille. Bon, il essaye de le tuer, mais on voit sans cesse qu'il est admiratif du travail de Mozart, etc., ce qui fait que les enjeux sont toujours un peu trop légers pour attirer vraiment mon attention. Mais je pense que c'est lié à l'ambition du film qui était de plaire à un très grand nombre et en s'attachant à montrer une chose assez consensuelle sur un artiste qui est peut-être l'un des plus connus de toute l'histoire.
À l'époque, il a coûté assez cher, hein, c'était à peu près 18 millions de dollars, qui était assez gros pour le contexte de l'époque, et il a amorti ses frais quasiment dès les premières semaines aux USA. Donc je pense que c'est pour ça la grande différence entre le voir en 1984 et 2002, ça donne vraiment un biais sur ce film, et donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle tous ensemble. Édouard Rebrann.
Permettez-moi d'être en désaccord avec vous, dans le sens où je trouve que ce film, encore une fois, est une porte d'entrée formidable pour entrer dans l'univers de Mozart. Et ce que soulève Camille sur le rôle de la femme, on va dire, est un vrai sujet. On est en plein dedans, effectivement. Mais c'est un peu comme reparler ou remettre en question, voilà, il y a des sujets d'actualité très importants aujourd'hui, comme le rôle de Napoléon, par exemple. Est-ce qu'il faut le commémorer ou bien le vénérer, bon, c'est une vaste question. La commémoration, pour moi, ce film, voilà, c'est un film culte qui.
Si je peux t'interrompre, Edouard, rapidement pour rebondir sur ce que tu dis, c'est entièrement vrai. On peut voir tous les films de l'histoire du cinéma et les trouver misogynes rétrospectivement. La différence ici, c'est qu'on fait un peu de révisionnisme dans la mesure où on rend les femmes toutes hystériques, bêtes, intéressées, alors que dans les faits, c'était pas du tout la réalité de l'univers mozartien, ni dans son œuvre, ni dans sa conception à lui, ni dans le cas des personnages qui sont évoqués, qui sont tous caricaturaux. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus dérangeant que d'habitude, c'est que ça ambitionne en plus de réécrire l'histoire et en rendant la femme complètement stupide.
C'est un très 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 bon point parce qu'il y a beaucoup de remises en question de beaucoup de films, comme les Aristochats par exemple. Et maintenant, avant la diffusion de chaque...
Les Aristochats.
Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, dans les Aristochats, il est dit aujourd'hui que voilà, c'est un groupe de musiciens et qu'il y a un chat qui joue de la batterie, qui est représenté comme un chinois et qui joue avec des baguettes. Bon, voilà, il y a beaucoup de remises en question de beaucoup de films, mais comme autour en emporte le vent, c'est pas une raison pour les bannir, les honnir et les oublier, parce que ce qu'on appelle la cancel culture, on en parle beaucoup, mais en revanche de mettre un avertissement au début du film, pour rebondir sur ton point, Camille, effectivement, ne serait pas stupide, et de mettre en garde aussi en même temps sur la réalité historique des faits. N'ont pas été
non, avérés. T'as pas à mettre en garde, les gens sont assez intelligents, mais enfin, quand on analyse le film, on peut noter quand même que effectivement, Forman a peut-être oublié de rendre hommage aux femmes dans sa carrière.
Oui, ça c'est complètement vrai. Il faudrait que je revoie Larry Flint aussi pour ça. Je voulais revenir sur
deux autres... C'est pas génial.
C'est pas génial, ouais.
Mais c'est pas génial de ce point de vue-là non plus, ouais.
Moi, pour peut-être voilà, terminer là-dessus, en tout cas, je voudrais reparler de deux autres choses. Je pense que c'est aussi un film de producteur, effectivement, à une visée internationale, d'où la langue, mais parfois c'est gênant. Le pire exemple en date, c'est récemment Une vie cachée de Terrence Malick, qui est un très beau film, mais bon, tout d'un coup, il s'engueule en allemand, parce que ça fait bien, et puis tout d'un coup, il parle en anglais avec un accent allemand. Donc c'est très bizarre, mais voilà, faut plaire au plus grand nombre et trouver les financements. Dernier point, je trouve que ce que j'aime aussi dans ce film, ce sont deux choses. C'est l'usage de la voix off et de la narration, parce que finalement, on arrive à la fin de la vie de Salieri qui va raconter cette histoire, et je trouve que c'est toujours un très bon procédé. À l'inverse, dans Barry Lyndon, c'est une voix très anglaise qui nous raconte l'histoire, donc qui est un narrateur off. Enfin, et je voudrais parler de la version Director's Cut, parce que ce qui a été rajouté essentiellement, c'est... pas mal de discussions, à vrai dire, métaphysiques autour de Dieu. Et effectivement, j'aime beaucoup dans ce film l'aspect mythologique, enfin l'aspect mythique. Effectivement, on disait souvent en parlant de Mozart que c'était la main de Dieu qui écrivait. Et j'aime beaucoup ce parallèle avec la religion, en fait, avec ce côté finalement blasphématoire. Est-ce que Amadeo, c'est quelqu'un qui blasphème tout le temps, qui est à bannir? Il le dit lui-même, je suis un être vulgaire, mais ma musique ne l'est pas. Donc voilà.
Oui, cette phrase est mythique, elle peut conclure d'ailleurs notre discussion. Une phrase de fin, donc ce film a été énormément récompensé lorsqu'il est sorti. Aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'il aurait, du coup, apparemment non, mais est-ce que il aurait toutes ses récompenses en sortant aujourd'hui?
Bonne question, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si au niveau du scénario aussi, il serait convenable de le produire. Disons qu'en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que c'est extrêmement bien réalisé.
Et je pense qu'il y a peu de films qui ont connu des succès énormes, notamment au niveau des récompenses, qui, s'ils étaient délocalisés dans le temps et réinstallés plus tôt ou plus tard, fonctionneraient. C'est un film de son époque. On peut pas faire aux réalisateurs le procès de leur époque. Mais on peut, quand on analyse une œuvre d'art, se dire que rétrospectivement, elle a sans doute péché par quelques égards. Moi, ce que je lui pardonne le moins, finalement, c'est cet énorme simplisme et d'avoir fait de Mozart un être totalement caricatural, alors que, évidemment, son œuvre, les éléments historiques dont on dispose, et n'importe quoi, en font quelqu'un de plus complexe. Et puis, parce qu'on l'a pas dit, ça a quand même complètement participé à calomnier Salieri à un point dingue. Je crois qu'il y a peu de figures historiques qui ont été autant calomniées par une œuvre d'art dans l'histoire de l'art. Je crois qu'aujourd'hui, quand on dit Salieri, la plupart des gens qui ont un peu de culture cinématographique répondent « Ah oui, c'est celui qui a tué Mozart », alors qu'en qu'en fait, il y a rien du tout qui étaye ça. Au contraire, Salieri était plutôt un brave type, mais qui est représenté dans ce film comme un être mauvais, sournois, manipulateur, assassin, compositeur médiocre et envieux. Et ça, quand même, c'est un peu limite.
C'est vrai que c'est fabuleux. C'est vrai que c'est fabuleux. Ce pauvre personnage de Salieri qui a presque rien demandé, qui s'en prend plein la gueule pour parler vulgairement comme Mozart.
Mais je crois que s'il y a un après-monde qui existe et que Salieri a l'occasion d'aller tapoter sur l'épaule de Miloš Forman, il va s'en prendre une.
Bon, Edouard Meyer, c'est ton mot de la fin.
Non, c'est très bien, je laisserai à Camille, c'est tout à fait juste, je trouve.
Merci, on vient donc de passer une demi-heure tous ensemble autour de ce film qui visiblement suscite encore pas mal de polémiques. Si je résume, on est deux à aimer ce film et deux à l'aimer moyen, mais par rapport à différents détails. Je crois qu'on pourrait en parler encore des heures. La seule chose de positive de ce film, c'est qu'effectivement, c'était une excellente porte d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas Mozart. Je me joins à l'avis d'Edouard. Et moi, personnellement, c'est grâce à ce film que j'ai découvert à 7 ou 8 ans, effectivement, Mozart dans toute sa splendeur. Merci.
Merci beaucoup.
Neri.
Merci beaucoup.